J'ai besoin de la zapette, par contre. Ah. Bonjour. Désolée, je dois me préparer. Déjà, je dois me changer les lunettes. Sinon, je ne peux pas lire. Pardon. Et c'est une nouvelle chair, là. Voilà. Change les lunettes. J'ai laissé là-bas. Et je vais aussi m'enregistrer avec mon téléphone. Du coup, excusez-moi, je prépare ça aussi vite que possible. Je ne les trouve pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si ça s'enregistre, c'est bien. Là-haut et sinon, ce n'est pas grave. Hop. Ah oui, la chair est différente, non? Je ne me reconnais pas trop. Alors, bonjour à tout le monde. On est dans une série de prédications, pour ceux qui ne sont pas au courant, sur les cadeaux que Dieu nous a offerts. Laurent a débuté la série avec une prédication sur Jésus comme cadeau. Marilyn a continué la semaine dernière en nous parlant de l'Esprit-Saint comme cadeau. Et cette semaine, j'arrive pour vous parler de l'Église comme cadeau ou non. Parce que je pense que nous sommes tous d'accord que Jésus est le plus beau des cadeaux qui nous a été jamais offert. Et on sera aussi d'accord sur le fait que l'Esprit-Saint est un immense cadeau. Ah, Dieu qui vient vivre dans nous. Un cadeau que peut-être nous n'avons même pas déballé, comme Marilyn nous a alerté la semaine dernière, et qu'on a laissé traîner poussiéreux dans un coin. Mais un cadeau quand même. Et pourtant, j'ai l'impression que dans les cas de l'Église, ce n'est pas tellement évident pour nous qu'il soit aussi un cadeau des grandes valeurs. Alors, j'ai intitulé cette prédication « L'Église, un cadeau avec un signe d'interrogation ». Nous savons, les chrétiens, que nous sommes censés intégrer une Église une fois qu'on a donné notre vie à Jésus. La parole nous rappelle les commandements, par exemple dans la lettre aux Hébreux, j'ai mis la citation. On est en Hébreux 10, c'est le verset 25, et c'est la version du Semeur. C'est écrit « Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et c'est là, d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. » Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je relis ces passages, je suis à nouveau surprise parce que je les trouve d'une actualité étonnante. Oui, c'est vrai que certains ont pris l'habitude de délaisser nos réunions. C'est vrai qu'on, je pense, on peut dire qu'on ressent l'importance de nous encourager mutuellement et qu'on voit se rapprocher les jours du Seigneur. En fait, de plus en plus, on retrouve partout dans le monde des chrétiens qui veulent bien les cadeaux de Jésus, bien sûr, qui veulent bien les cadeaux de l'Esprit-Saint, tout à fait, mais qui ne voient pas trop l'intérêt de se réunir en église. Certains viennent à l'église pour accompagner leurs enfants, mais s'ils n'avaient plus d'enfants, est-ce qu'ils viendraient toujours? Certains trouvent sur Internet des prédications qui les conviennent mieux, des louanges bien à leur goût, des enseignements adaptés. On a un énorme choix à la carte. C'est certain, c'est moi la première, hein, parce que moi-même, je suis une grande consommatrice de tous ces produits chrétiens à la portée d'un clic. C'est magnifique. Bref, pourquoi venir encore à l'église à l'ère digitale? Alors, j'ai eu à cœur pour cette prédication de vous parler de mon expérience d'église. C'est une prédication de témoignage, si vous voulez. Je vais vous raconter comment j'ai passé de ne pas avoir besoin, en étant déjà chrétienne, et ne pas avoir vraiment l'intérêt d'intégrer une communauté, à devenir quelqu'un complètement convaincus de l'intérêt et même du besoin, de la nécessité d'aller à l'église. En fait, j'ai fait les voyages à l'inverse de toutes ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent à délaisser les réunions, comme dit les textes. Alors, commençons par les débuts. C'est quand j'étais jeune, j'étais avec ma famille. Ma famille est une famille, était une famille catholique par tradition et par culture. On allait à la messe les dimanches et les enfants, on allait dans des écoles catholiques. Mais notre engagement s'arrêtait là. Je me suis convertie toute seule vers les 14 ans en lisant les évangiles. Les évangiles qui m'avaient été offerts dans mon école catholique. Et je suis tombée amoureuse de Jésus. Toute seule dans ma chambre, j'ai vécu ma petite vie des prières et des piétés avec les seigneurs et avec l'Esprit Saint que j'ai rencontré aussi très tôt et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Alors, j'ai lisé des livres catholiques, j'allais à la messe et avec le temps, je suis devenue, je ne sais pas si je prononce bien, catéchiste ou catéchiste, bon, monitrice de l'église junior en version évangélique. Et cela a duré des années. J'ai m'étonné que dans ma paroisse, il n'y avait que les enfants qui s'est préparé pour la première communion, et les vieux qui attendaient la mort. Je me disais, mais où sont les chrétiens de 20 ans comme moi, de 30, 40, 50? Il doit y en avoir quelque part. Mais je vivais ma petite vie des fois toute seule, et ça me convenait, jusqu'à un jour. Un jour où l'Esprit Saint a tout changé. Soudain, j'ai commencé à avoir une grande envie de trouver une communauté de croyants comme moi, des gens qui voulaient prendre la parole au sérieux. Et l'envie a grandi dans moi jour après jour. Du coup, je me suis mis à aller partout où je voyais écrit Jésus, à la recherche de cette communauté de croyants qui devait exister quelque part. Bon sang, j'habitais dans une grande ville. Finalement, comme disent les Américains, to make a long story short, parce que je pourrais raconter plein d'anecdotes là-dessus, j'ai découvert qu'il y avait une église internationale, et j'ai mis cet accent international parce que dans mon cœur, j'ai toujours à cœur les mondes entiers. J'ai rêvé d'aller dans tous les pays du monde. J'allais me promener dans l'aéroport pour rêver de quelle destination j'y prendrais. Pour vous dire, j'ai un cœur pour les communautés internationales. Et j'ai découvert qu'il y avait une église internationale à 10 minutes à pied de chez moi. Et à Barcelone, c'est vraiment pas évident d'avoir une église à 10 minutes. Et je me souviens du premier jour où je suis arrivée. Je me souviens de la chanson qu'il chantait. Pardon. C'est la faute à Franchon. Il m'a fait pleurer avec son vidéo. De la chanson qu'il chantait quand je suis rentrée. C'est une chanson qui s'appelle The Potter's Hand. C'est une église tout en anglais. C'est une chanson des Hillsong, pour ceux qui sont fans des Hillsong, de son album Shout to the Lord 2000. Je n'écoutais pas vraiment la chanson, je ne savais pas ce qu'il disait, mais je l'ai trouvée trop belle. Et soudain, j'ai compris que j'étais arrivée à la maison. Alors, trop bizarre. Hein? Je ne connaissais pas l'endroit et je ne connaissais personne, je vous assure. Mais je suis tout de suite que j'étais chez moi. Parce qu'en fait, l'Église, c'est une famille spirituelle. L'Église, on le sait, on l'a entendu souvent, elle n'est pas un bâtiment. Elle n'est même pas les événements, les cultes qu'on peut faire, où on assiste. L'Église est une famille spirituelle. C'est pour ça que j'ai demandé à mon intelligence artificielle à la maison de produire une image où on voit des personnes et la croix au centre. Nous sommes appelés, je vais le dire en anglais aussi, parce que j'aime bien les jeux de mots, to believe and to belong. C'est-à-dire, nous sommes appelés à croire en Jésus, ce qui ne veut pas dire une croyance intellectuelle, mais faire confiance, une démarche dans la vie. Mais aussi, on est appelé à appartenir, to belong, au corps de Jésus. Parce que ça, c'est une autre chose qu'on apprend dans la parole. L'Église, c'est le corps de Jésus. Le fait de sentir qu'on appartient quelque part comble un des besoins plus profonds dans les cœurs des hommes et des femmes. On a tous besoin de sentir qu'on appartient. Nous sommes appelés à entretenir une relation verticale avec les seigneurs, et ça, nous, les évangéliques, on est très forts là-dessus, mais aussi appelés à une relation horizontale avec nos frères et sœurs, parce qu'on est dans une famille où nous sommes entre frères et sœurs, et nous tous, nous avons un seul Père. L'Église, je disais avant, c'est le corps de Jésus, c'est un corps vivant. Et nous savons que pour que chaque organe d'un corps, de notre corps, fonctionne, il doit être connecté aux autres organes. La même logique du corps physique s'applique au corps spirituel. On retrouve la métaphore du corps pour l'Église dans 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai choisi deux versets. Où dit « Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous êtes les corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. » On pourrait se poser la question, est-ce que nous, si savons qu'un membre souffre, souffrons-nous ? Si quelqu'un est mis à l'honneur, nous nous réjouissons avec celui ou celle-là ? Si un organe est séparé du corps, il ne survivra pas. C'est pourquoi les premiers symptômes du déclin spirituel est généralement pas trop venir au culte ou carrément abandonner le culte. Mais dès que nous devenons négligents envers la communion fraternelle, tout le reste commencera aussi à s'effondrer. Dieu nous a créés pour être en connexion, verticale et horizontale, pour être en communauté les uns avec les autres. Dans le Nouveau Testament, l'expression « l'un l'autre » ou « mutuellement » qu'on a vu dans l'Épître aux Hébreux, apparaît plus de 50 fois. Parce que nous sommes appelés, je ne vais pas lire tout, mais à nous entraider les uns les autres, à nous servir les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous honorer, à nous pardonner les uns les autres. Tout ça sont nos responsabilités en tant que membres de la famille de Dieu. La Bible appelait l'Église les corps de Christ et aussi l'épouse de Christ, ou la fiancée, parce qu'on n'est pas encore marié. Dire qu'on aime Jésus, mais qu'on n'aime pas l'Église, serait comme dire qu'on n'aime pas ni son épouse ou sa fiancée, ni son corps. Est-ce que ça tient la route? Et c'est dans la communauté qu'on peut survivre, parce qu'on est des organes connectés aux autres, mais pas que. L'Église est une famille spirituelle pour grandir. Et c'est ce que j'ai expérimenté en arrivant à mon Église, celle qui deviendra mon Église plus de 10 ans, je pense. Le fait de retrouver d'autres chrétiens comme moi, je disais, voilà, des gens comme moi, m'a permis de me rendre compte de l'état pénible de ma situation spirituelle, de l'état réel de ma situation spirituelle. Une petite anecdote. Je ne savais pas, par exemple, qu'il fallait lire la Bible, que la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Je ne dis pas que c'est la vérité dans toutes les communautés catholiques, mais à mon époque, dans ma paroisse, là où j'habitais, c'était comme ça. Et dans cette église, il y avait un pasteur, il y avait aussi un pasteur des jeunes, un youth pastor, qui vite m'a repéré et qui m'a dit « Ah, tu es chrétienne ?» Et je dis « Oui, oui, ah, oui, oui, oui. » Et alors, « Tu lis la Bible ?» Et moi, je lui ai dit, je me souviens, comme si c'était hier, j'étais là, lui là, là. Et j'ai dit, moi la Bible, je l'ai déjà lue. Et c'était vrai en plus, hein, parce que je viens d'un contexte assez intellectuel. Voilà, chez nous, on avait beaucoup de livres. Chez nous aussi, maintenant, on a beaucoup de livres. Et si j'ai fait une chose dans ma vie, c'est lire et étudier. Et j'étudiais littérature universelle, et j'avais lu la Bible, comme j'avais lu l'Iliade d'Homère, comme j'avais lu les tragédies de Shakespeare. J'ai déjà lu la Bible. C'est bon pour moi. Si je compare ma vie spirituelle avant l'arrivée à l'église et après, c'est comme comparer la vitesse de la marche à pied, et je ne marche pas très vite, avec la trajectoire d'un avion à réaction. Vous savez, ces avions qui parfois survolent Chambéry, on ne les voit même pas. On l'entend et pff, parti. Voilà. Si j'ai fait un graphique, c'est comme avant, j'étais comme ça. Le Seigneur était avec moi, il était bon, il m'aidait. Et après, c'était whoop. Waouh, je ne me reconnais même pas moi-même. Pour grandir, on a besoin de beaucoup plus que nos livres pieux et même plus que la Bible. Nous grandissons plus vite et plus fort en apprenant les uns des autres et en nous faisant d'une certaine manière responsables les uns des autres. C'est l'expression « accountability ». Je ne sais pas si je la traduis bien en français. C'est-à-dire qu'il y a les regards de quelqu'un posés sur nous qui nous permet de faire des vis-à-vis. On n'est pas toute seule. La maturité spirituelle se forme, se travaille dans la relation, pas dans l'isolement. Et l'Église n'est pas seulement une famille qui nous accueille quand on se sent seul et perdu dans le monde, comme moi je me sentais. C'est pas seulement, comment dire, un terrain qui nous permet de grandir comme une plante. Elle est aussi, pour moi en tout cas, un hôpital pour guérir. Peu après mon arrivée à l'église, en plus de ces pauvres youth pastors qui a dû se dire « on a du boulot avec cette fille », j'ai rencontré celle qui serait une de mes meilleures amies, une missionnaire allemande qui avait étudié théologie et counseling, relations d'aide. Elle m'a vue, elle a parlé 5 minutes avec moi et elle m'a dit « tu vas pas très bien, non ?» Et moi, je dis « non, 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 non. » Parce qu'aujourd'hui, vous me regardez, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez, mais je vous assure que j'étais brisée. Je viens d'une famille extérieurement, apparemment, tout allait très bien, cultivée, riche, bien aisée, les enfants vont des écoles catholiques, mais avec plein de soucis, de tout ordre à l'intérieur. Et du coup, dans toute mon enfance et ma première jeunesse, j'ai vécu des choses très, très compliquées, qui m'avaient cassée. Alors cette nouvelle amie, elle m'a vue, elle a compris, elle a décidé de m'aider. J'ai fait plein de thérapies psychologiques chrétiennes avec elle ou grâce à elle. J'ai commencé par les 12 steps, c'est les 12 étapes, que c'est la thérapie qui font, une thérapie des groupes, hein, des paroles, qui font surtout les alcooliques anonymes hein, dans le monde entier, qui est des bases chrétiennes extraordinaires, mais qui utilisent toutes les personnes avec des troubles émotionnels ou tout genre d'addiction. L'Église, c'est le cadre qui m'a permis de commencer à guérir. Déjà, quelqu'un m'a repéré, il a vu que je n'allais pas bien. Mais pas seulement par l'accompagnement très personnel, c'était un luxe que j'ai pu recevoir, mais aussi par tous les livres que ma copine et d'autres personnes ont pu me suggérer, les enseignements, les conversations informelles, les festivals où j'ai assisté avec d'autres personnes de l'Église, les expériences que j'ai pu partager, mais le simple fait de vivre parmi des personnes qui allaient bien. Je les regardais, je disais, mais cette personne, elle a sa vie en ordre. Cela m'encourageait en me disant, un jour, moi aussi, j'aurai une vie en ordre. Et pour cela, je serai toujours en dette avec mon Église. Je vais passer à une troisième et dernière raison pour laquelle je pense que l'Église est un cadeau d'énormes valeurs. Jusqu'à présent, j'ai dit que c'est un cadeau parce que c'est une famille. Il y a tellement de personnes complètement paumées qui n'ont pas vraiment de famille. C'est une famille qui, en plus, c'est un bon terrain qui nous permet de grandir spirituellement. Mais c'est aussi un hôpital où les blessés de la vie peuvent guérir. Et là, je passe à l'Église comme école de vie pour apprendre à aimer et à pardonner. Dans l'Église, on aime beaucoup parler de l'amour et on a raison de le faire. C'est le cœur des de deux plus grands commandements que Jésus nous montre. S'il devait choisir de toute la Bible, il prend, on le sait, Deutéronome 6:5, « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et aussi, il prend les deuxièmes commandements, il vient de Lévitique 19, qu'il faut aimer son prochain comme toi-même. Jésus va révisiter même, dans l'évangile des Jean, cet commandement pour encore l'élever plus. Il ne va pas dire « il faut aimer l'autre comme toi-même », il faut dire « il va aimer l'autre comme moi je vous ai aimé ». Waouh ! Ça monte la pression d'un camp. On est encouragé à vivre, à pratiquer l'amour fraternel des gens entre nous. Il y a plein de choses qui peuvent nous inspirer en gardant la communauté pour aller plus loin dans notre expérience de l'amour, la vie des autres. Plein de personnes, par exemple, chez moi, qui m'ont invité à manger, je voyais comme ils géraient la famille, comme ils me parlaient de comment ils géraient les finances, les émotions, la carrière professionnelle, les sentiments et tous les témoignages que j'ai pu entendre des uns et des autres. Mais souvent, nous ignorons que si on parle de l'amour, on devrait aussi parler en même temps du pardon. Parce que l'un ne peut pas survivre sans l'autre. C'est très important d'apprendre à aimer. Je dirais encore plus exactement, de laisser Dieu nous apprendre à aimer. Mais c'est également important d'apprendre à pardonner. Parce que le pardon, c'est une expression de l'amour. Et si on aime quelqu'un, un jour ou un autre, plus tôt ou plus tard, on devra le pardonner parce qu'il va nous blesser, parce qu'il va nous décevoir. Et nous aussi, un jour ou un autre, plus tôt ou plus tard, nous aussi, nous devrons demander pardon parce que nous aussi, on va blesser ou décevoir l'autre. Et si j'y relis l'amour et les pardons dans une même idée, c'est parce que la parole le fait aussi. Et là, j'ai mis, c'est bien ça, Lévitique 19, 18. C'est les versets que Jésus cite pour dire quels sont les deux plus grands commandements. Mais Jésus choisit la deuxième partie du verset. Et moi, je l'ai mis en entier parce qu'il y a une relation, il y a un « mais » au milieu. Il dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Mais » tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, pour pouvoir aimer l'autre, d'abord, il faut nettoyer notre cœur, éviter la vengeance, éviter la rancune. Et moi, je suis une personne très rancunieuse, ça me parle. Et pourquoi je parle de l'amour et du pardon quand je parle de l'Église? Parce que vous pouvez imaginer, après tout ce que je vous ai raconté, deux petites anecdotes que... Je suis tombée amoureuse de mon église. Dimanche, c'était les meilleurs jours de la semaine et avec différence. J'ai tant reçu, franchement. Mais un jour, je me suis fâchée et je suis partie. Je me suis fâchée avec mes pasteurs parce que je me suis fait gronder pour une raison qui ne me semblait pas juste. Depuis ma conversion, le Seigneur m'avait donné un grand amour pour toutes les dénominations chrétiennes. Et je dois dire que c'est vraiment que c'est pas que quelqu'un m'a dit il faut travailler pour l'œcuménisme, c'est que vraiment ça me faisait mal quand quelqu'un parlait mal d'une autre famille chrétienne. Parfois, j'allais dans une église orthodoxe à Barcelone. J'ai fréquenté des groupes catholiques charismatiques. J'ai allé dans leurs conventions. J'avais plein d'amis catholiques charismatiques. Et moi-même, j'ai été oratrice dans une convention catholique charismatique pour parler du besoin de la relation entre frères et sœurs, tous unis autour de la croix. À une époque même, je m'étais imposée de lire un livre catholique. Après, j'ai lisé un livre orthodoxe. Et après, j'ai lisé un livre protestant. Et on recommence la série. À nouveau, catholique, orthodoxe, protestant. Tout cela pour garder l'unité du corps de Christ, au moins dans mon cœur. Je vous dis tout ça pour vous dire comment c'était important pour moi tout ça. Mais mes pasteurs m'ont fait comprendre qu'une évangélique n'entraînait pas dans des paroisses catholiques. En fait, à cette époque, je voulais implanter les parcours alpha dans la paroisse de mon quartier. Bref, je me suis sentie très vexée et j'ai quitté l'église à la recherche d'une autre qui serait bien mieux. Mais j'étais étonnée. Après me faire gronder par mes pasteurs, je me suis fait gronder par les seigneurs. Pour d'autres raisons, il faut les dire. En fait, il m'a fait voir que je n'avais pas choisi mon église. Comme je vous ai raconté, c'est lui qui m'emmenait là et qui m'y avait planté. En fait, on parle souvent d'un planter des églises, des planter des églises, c'est tellement vrai. Il y a quelque chose dans l'effet de rester. Et j'ai devais y rester jusqu'à les moments où je devrais partir. Cette expérience m'a appris que l'Église n'est pas parfaite. Les pasteurs n'est pas parfaite. Je suis bien placée pour vous le dire. La femme du pasteur n'est pas parfaite. Les frères et sœurs ne sont pas parfaits. En fait, ils sont très imparfaits, comme nous tous. Qui suis-je pour juger l'Église ? L'Église, en plus de me satisfaire et de m'enthousiasmer, de me faire tomber amoureuse, elle allait aussi me décevoir, t'as qu'à voir. Mais la réponse à cela n'est pas quitter, rompre la relation, partir vexée, mais apprendre à vivre avec, accepter, rester, pardonner, garder la communion fraternelle. Bien sûr, j'aurais pu aller dans une autre église avec un grand amour pour l'œcuménisme. Mais certainement, elle n'en m'aurait pas convaincue dans plein d'autres domaines. En fait, on ne peut pas quitter... Aujourd'hui, on parle d'une église, mais on pourrait dire pareil, un boulot, un petit ami, un conjoint, une relation, parce qu'elle nous déçoit. Ce n'est pas un argument suffisant. Parce que tout et tout le monde va nous décevoir, plus tôt ou plus tard. Et nous aussi, nous allons décevoir les autres. On va se dire, ah, mais dans cette église, on parle trop de ça. Ah, mais dans cette église, on ne parle jamais de ça. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez tendance à changer tout le temps, pas d'église, hein, en général, probablement, c'est parce que vous n'avez pas accepté les mâles chez les autres, comme il est aussi chez nous. Les mâles sont dans le monde. L'église parfaite, on la retrouvera un jour, mais elle n'est pas sur terre. Et il faut, pour une bonne santé mentale, accepter cela et vivre avec. Du coup, la question n'est pas « Quelle est l'église parfaite qui me plaît le plus ?» Ça, c'est une question piège. Je viens de le dire, l'église parfaite est dans les cieux. La question à se poser, c'est « Où est-ce que Dieu m'a planté ?» Et alors, c'est planter et persévérer. L'église m'a déçue. Elle n'était pas parfaite, et moi non plus. Du coup, j'ai avalé mon orgueil, parce que c'est un problème psychologique de ne pas accepter que les autres sont différents et du coup, ça met dans l'autorité de pouvoir partir. C'est un problème psychologique, hein, et c'est un problème d'orgueil. J'ai avalé mon orgueil, je suis revenue à mon église et, oh, surprise, on m'a nouvelle accueillie avec une grande joie, parce qu'ils m'aimaient beaucoup, et moi, je les aimais beaucoup, en fait. Hein, comme si de rien ne s'était. Ils m'ont fait grâce. Et c'est pour tout cela que je suis une grande convaincue de l'importance et de la nécessité d'aller à l'église, ou plus exactement, de s'impliquer, d'intégrer une communauté. Parce que je ne veux pas seulement survivre. Et là, je vais faire un autre jeu de mots en anglais. Désolée. I don't want to survive, but to thrive. C'est-à-dire, je ne veux pas seulement survivre spirituellement, mais je veux grandir toujours plus loin, plus haut, comme un arbre bien planté et bien irrigué. Je vais grandir et, si possible, aider les autres à grandir aussi. Je vais aller à l'église pour continuer à guérir, parce que c'est un travail jamais fini. Encore des blessures anciennes qui reviennent peut-être de temps en temps, ou pour guérir des nouvelles blessures qui ont besoin de pansements. Et je vais aider d'autres à guérir aussi, si l'occasion se présente. Je vais vous dire que je viens à l'église même si je n'ai pas envie, et cela m'arrive. Et dans les jours comme cela, je ne viens pas parce que je suis la femme du pasteur. Je ne viens pas pour Laurent. Et je ne viens pas pour vous. Et je vous aime bien, je vous assure. J'aime bien cette église. Je viens parce que Dieu m'envoie. J'ai bien compris la leçon. J'ai tellement reçu de toutes ces personnes qui se levaient tôt dimanche matin à Barcelone pour être au rendez-vous à l'église. Toutes ces personnes qui ont traversé des océans, qui ont quitté leur famille, leur pays, leur vie, pour être témoins de l'amour de Dieu auprès de moi? Non. Et alors je me dis, oui, je vais m'élever. Oui, je vais être au rendez-vous. Et si aujourd'hui le Seigneur a quelque chose de prévu pour quelqu'un qui vienne à l'église, et c'est moi l'outil dans les mains du Seigneur. Et pour tout vous dire, dès que j'obéis et je décide de venir malgré ma mauvaise humeur, le Seigneur m'offre tout de suite les cadeaux de la joie. Ah là là, l'obéissance, c'est la clé pour avoir la joie. Et après les cultes, comme par casualité ou causalité, je me rends compte que j'ai pu encourager, prier, saluer, partager, consoler quelqu'un qui n'avait besoin. Dieu avait prévu, malgré moi, un rendez-vous divin. L'Église est donc un grand cadeau que Dieu nous donne, à tous et à chacun de nous, si on a envie de le déballer, de l'accepter, au beau jour et au mauvais. Et si on est capable de voir au-delà de nos intérêts privés, si on est prêt à vouloir grandir, et parfois cela va faire mal, il faut désapprendre plein de choses avant d'apprendre d'autres. Si on est prêt à vouloir aimer, et cela implique aussi pardonner, et ce n'est pas du tout facile. Si on est prêt à vouloir croire que nous sommes les corps du Christ, waouh, et qu'on est là pour aider d'autres à les découvrir et à les vivre. L'Église est l'instrument que Dieu s'est offert à lui-même pour que son plan de rédemption de l'humanité entière puisse se déployer jusqu'à la confin de la terre. Qui allait me dire à moi, ces premiers jours que je suis rentrée dans mon Église, que je serai un jour à Chambéry, ici, à vous parler de ça. Du coup, pour moi, la vérité, c'est que l'Église, c'est un cadeau pour nous et pour toute l'humanité. Jésus nous a sauvés. C'est un grand cadeau qui nous a fait nous souvenir aujourd'hui fin champ. Mais maintenant, il a besoin de nous. Il est parti. Nous, qui sommes son corps, Nous qui sommes ses yeux, ses mains, ses pieds, sa bouche. Et si quelqu'un rentre aujourd'hui dans notre église et se dit, ah, comme moi, voilà, finalement, je suis à la maison. Je ne comprends rien. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne suis pas habituée à tout ça. Cette personne aura besoin des frères et des sœurs qui lui fassent grâce. Si on a perdu l'essence de pourquoi venir à l'église, c'est peut-être parce qu'on fait une utilisation strictement personnelle, comme on fait avec Internet. Et je vous assure, il n'y a personne ici plus consommatrice des choses sur Internet chrétienne que moi. Alors, je ne porte pas de jugement. Mais est-ce qu'on fait une utilisation strictement personnelle et privée de l'église au lieu de voir les points de vue de Dieu? On oublie peut-être que l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Un cadeau pour nous, mais pas que. C'est un cadeau pour toute l'humanité. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes comme moi à l'époque, complètement satisfait de votre petite vie de piété, sans devoir rendre compte à personne, déconnecté de toute communauté? Sachez que vous ratez des choses extraordinaires à vivre en communauté. Ou peut-être vous n'avez jamais vu l'Église comme un cadeau, mais plutôt comme une contrainte, voire un empêchement. Ah mais non, ah mais il faut s'élever, et l'Église est loin, et c'est cher d'aller à l'Église, parce qu'il faut faire les pleins de la voiture. De toute façon, personne ne me connaît. Ah, et de toute façon, rien ne va se passer. Ah, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Alors vous croyez en Jésus, mais vous ne croyez plus au corps de Jésus. On juge l'Église. Moi, j'ai jugé l'Église. Alors que l'Église nous fait grâce, comme c'était mon cas. On est prêts, nous aussi, à faire grâce à l'Église et donc à nos frères et sœurs. Est-ce qu'on peut croire en Jésus et en même temps délaisser son corps? Et si on s'est décidé à croire que tout est possible, parce que c'est écrit, pour celui qui croit, même dans cette Église. Prendrons-nous la place qui nous est attitrée pour continuer la chaîne du salut, pour que personne ne se perde, comme c'est la volonté du Père? S'il y a quelque chose que vous avez entendu et qui vous a vraiment touché, je vous encourage à aller voir les personnes qui seront après les cultes dans les petites salles pour prier avec eux ou qu'ils prient pour vous. Peut-être vous avez envie de demander pardon à Dieu. Vous avez envie de remercier Dieu. Profitez déjà de cette réalité d'église, des personnes qui prient avec vous ou pour vous. Et là, je vais prier. Merci notre Père pour ce temps qu'on peut partager, méditer autour de ta parole ensemble et en liberté. Merci pour ces cadeaux que tu nous as fait dès l'église, Seigneur. Je te demande que tu touches nos cœurs pour qu'on puisse, tout au long de la semaine, nous rendre compte de comment on est en dette avec plein de personnes, plein d'églises peut-être, plein de circonstances qui nous ont aidés à grandir, à être plus et plus semblables à ton Fils. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen.